Très bien. Nous arrivons au dernier rapport que je vais vous présenter. Donc, c'est un rapport de solidarité avec une motion qui a été adoptée par le Conseil départemental et qui concerne la survie de la ruralité. Avant de vous lire ce rapport, ce que je vais faire quasi intégralement, je voudrais aussi vous donner connaissance du courrier que nous avons reçu, d'un courrier donc, qui est signé du président du conseil départemental de Lot-et-Garonne, M. Clamany, du président de l'amicale des maires de Lot-et-Garonne, M. Dionis du Séjour, et du président de l'association des maires ruraux de Lot-et-Garonne, M. Guy Clua. Voilà, je vais vous lire ce courrier d'accompagnement parce qu'il situe un petit peu les choses. Donc, Monsieur le maire, Madame le maire, Monsieur le maire, depuis plus de 10 ans, la situation financière des départements ruraux ne cesse de se dégrader en raison des désengagements continuels de l'État. Depuis quelques années, cette détérioration touche également la plupart des autres collectivités locales, notamment communales et intercommunales, du fait de la baisse des dotations, des transferts de charges et de l'inflation normative. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si l'espace rural avance moins vite que les territoires urbains, bénéficiant de l'attractivité d'une métropole, mais plus radicalement et tout simplement, si les pouvoirs publics souhaitent réellement que la ruralité continue d'exister. Cette situation est le résultat d'un constat. Les chemins de développement de ces deux Frances divergent. L'une bénéficie pleinement de la mondialisation, l'autre s'inscrit dans une trajectoire d'appauvrissement. En Lot-et-Garonne, comme dans la plupart des autres départements ruraux de notre pays, les capacités d'investissement de nos collectivités, communes, intercommunalités, conseils départementaux, s'amenuisent à la fois en raison de la baisse des dotations et, s'agissant du département, du fait du refus de l'État de compenser à juste hauteur les allocations individuelles de solidarité que sont le RSA, l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap que nous versons pour son compte. Le constat est sans appel, nos collectivités souffrent et c'est tout le monde rural qui est en danger. Aujourd'hui, nous voulons accentuer notre combat au niveau national, au sein des associations d'élus représentatives, l'Assemblée des départements de France, l'Association des maires de France et l'Association des maires ruraux de France, pour que les spécificités de l'espace rural soient enfin reconnues à leur juste mesure. À l'image des politiques de la ville menées depuis des décennies dans notre pays et récemment réaffirmées par le président de la République, nous demandons la mise en place d'un véritable plan Marshall pour les territoires ruraux, doté de moyens exceptionnels compte tenu de la situation. C'est pourquoi nous adressons ci joint un texte adopté à l'unanimité par les 42 conseillers départementaux de Lot-et-Garonne et co-signé par nous tous. Nous invitons à soumettre à votre conseil ce projet de délibération qui nous permettra de conforter le département et les collectivités dans la négociation qu'ils mènent avec l'État pour offrir un avenir à notre ruralité. Notre démarche est avant tout constructive et ne s'inscrit pas en opposition au gouvernement. Au contraire, nous souhaitons proposer des solutions pour l'avenir et tous les parlementaires, députés et sénateurs seront associés à cette initiative. C'est en effet unis, au-delà de nos sensibilités politiques, que nous pourrons porter efficacement la voix du Lot-et-Garonne au plus haut sommet de l'État. Voilà la lettre d'accompagnement. Je crois qu'il fallait la lire et je vais bien sûr aller sur la motion qu'il vous est proposé de voter. Et puis, on échangera là-dessus. Si vous le souhaitez, on pourra préciser un certain nombre de choses. Alors, cette motion, considérant que le président de la République, je vous la lis, hein, je vous l'avais sous les yeux, mais je pense qu'il est important de la lire, considérant que le président de la République a exprimé sa volonté de refonder les relations entre l'État et les collectivités territoriales, notamment par la mise en place d'un pacte de confiance. Considérant que le président de la République a présenté son souhait de voir les collectivités territoriales contribuer à l'effort budgétaire de la nation à hauteur de 13 milliards d'économies sur 5 ans, considérant que les relations entre l'État et les collectivités doivent être refondées et approfondies, considérant que les collectivités locales évoluent depuis plusieurs années dans un environnement institutionnel et financier particulièrement contraignant, baisse des dotations, désengagement de l'État, transfert de compétences, etc., considérant que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont soumis à une baisse de dotation et à des transferts de charges mal compensés, aux incertitudes budgétaires notamment liées à la suppression de la taxe d'habitation, aux conséquences désastreuses de décisions non concernées, l'inflation des normes, la modification de zonage privant les communes d'aides publiques et au retrait de la présence de l'État sur nos territoires. Considérant que les collectivités sont sous pression, à l'image des départements asphyxiés par la baisse des dotations et la croissance insuffisamment compensée des dépenses sociales, considérant que pour la seule année 2017, le différentiel entre les dépenses assumées par le département de Lot-et-Garonne pour le compte de l'État et les compensations versées par celui-ci représente 46 millions d'euros pour les trois prestations que sont le RSA, l'APA et la PCH, les trois allocations individuelles de solidarité. Donc retenez ce chiffre. Tous les ans, entre ce que coûte le versement de ces prestations, qui sont des prestations de solidarité nationale, encore une fois, ce n'est pas de la solidarité départementale, c'est une solidarité qui doit s'exercer au niveau national, qui incombait à l'État jusqu'il y a une dizaine d'années, qui ont été, le RSA, l'APA, etc., transférés aux collectivités avec l'engagement de l'État de compenser financièrement la charge, ce qui a été le cas les premières années, mais qui, au fil des ans, évidemment, a conduit à un différentiel entre la dépense et la compensation, à tel point qu'aujourd'hui, retenez ce chiffre, 46 millions ne sont pas compensés par l'État pour un gouvernement comme le nôtre. Et ça s'applique, département, pardon, et ça s'applique dans tous les départements, mais avec la particularité des départements ruraux, que ce sont des départements plus pauvres, donc RSA plus élevé, des départements plus vieux, donc des prestations en direction de nos aînés qui sont plus importantes, et des départements qui n'ont évidemment pas les ressources de départements métropolitains, de départements tels que la Gironde chez nous, ou les Pyrénées-Atlantiques, etc., mais beaucoup d'autres départements, évidemment, qui, tant mieux pour eux, ont des ressources bien supérieures aux départements ruraux. Voilà donc ce que je voulais vous développer concernant ce différentiel de 46 millions, ici, pour prendre l'exemple de Lot-et-Garonne, considérant qu'à ces allocations s'ajoutent les dépenses liées à la prise en charge des mineurs non accompagnés, MNA, dont le montant de 10 875 euros en 2012 est passé à près de 5 millions d'euros en 2017, cette somme risquant de doubler l'an prochain. Ça aussi, je m'y arrête deux secondes pour vous dire que ces mineurs non accompagnés, en effet, c'est là aussi une solidarité nationale. Vous allez me dire qu'on la retrouve sur tous les territoires, ce qui est vrai. Mais encore une fois, retenez les chiffres de ce que c'était en 2012, de ce que c'est aujourd'hui, et évidemment, par cette obligation qui est faite, qui nous est faite, bien entendu, et qui est portée par le département, mais là encore, sans compensation spécifique et à la hauteur de la charge, vous voyez ce que ça fait, quoi. Alors, évidemment que ça crée des problèmes comme vous l'imaginez. Considérant que depuis 2008, encore un chiffre, le montant cumulé de ce désengagement de l'État représente plus de 400 millions d'euros au niveau du département de Lot-et-Garonne. 400 millions d'euros, c'est un petit peu moins que le total du budget du département. Vous voyez, c'est un budget annuel, au total, depuis 2008, n'a pas été compensé par l'État comme cela aurait dû être le cas. Considérant que les départements assument seuls le financement des principales politiques sociales de notre pays, en dehors de toute logique de solidarité nationale, au détriment des investissements structurants pour l'avenir de notre territoire et de nos enfants. Considérant que sans mesure gouvernementale pérenne et spécifiquement adaptée aux difficultés des départements ruraux, cette situation portera atteinte aux politiques départementales dans les territoires, notamment pour la mise en place de maisons de santé pluriprofessionnelles, pour le haut débit, le très haut débit plutôt, le soutien aux associations, etc., qu'elle affectera également le soutien du département au bloc communal, communes et intercommunalités pour ses propres projets, c'est-à-dire le soutien aux projets touristiques, les aménagements de bourgs, les aides à l'assainissement, le patrimoine, les bâtiments communaux. Et vous faites tous le constat pour les plus anciens d'entre nous. Il y a quelques années encore, un département comme le nôtre, mais tous les départements pouvaient attribuer, c'était le cas, quoi. On avait pratiquement un droit de tirage, là, de chaque commune du département, d'une subvention par an, quoi. Vous pouviez présenter un projet pour des bâtiments communaux, pour l'aménagement d'un terrain de sport, pour autre chose. Vous aviez une subvention chaque année, quoi. Vous pouviez. Aujourd'hui, non seulement, alors c'est passé à deux, mais maintenant, vous aviez tout un pan de subvention qui n'est plus accordé, parce que les départements, le nôtre, comme les autres départements ruraux, n'ont plus les moyens. Donc l'effet domino, donc considérant que les conseillers départementaux refusent solennellement de faire porter sur les Lot-et-Garonnais une nouvelle hausse de fiscalité, l'effet domino sera dramatique, sans compensation par l'État, plus d'investissement départemental dans les territoires, et donc des projets communaux étouffés. Donc ce qui vous est proposé, et nous en avons discuté en bureau municipal, considérant que la vitalité de la ruralité et la dynamique métropolitaine vont nécessairement de pair afin d'assurer un équilibre territorial harmonieux de notre pays, je vous propose, chers collègues, de bien vouloir affirmer la solidarité de la ville de Boué avec la motion du Conseil départemental et demander à l'État de prendre en compte la réalité de la situation des départements ruraux. De demander ainsi que l'État mette en place des mesures de compensation pérennes du coût des allocations de solidarité nationale à la charge des départements, notamment ruraux, afin de leur permettre de continuer à investir dans les territoires et à soutenir les projets communaux et intercommunaux. De demander que le projet de loi de finances rectificative annoncé pour la fin de l'année soit abondé suffisamment et que les départements ruraux en difficulté disposent en priorité de ce fonds. Et là, je fais une petite parenthèse. Il y a en effet un fonds d'urgence qui est annoncé, mais qui serait franchement pas à la hauteur. On parle de 3 millions pour un département comme le nôtre, donc c'est bien, mais c'est évidemment pas à la hauteur du problème posé, et de demander à l'État qu'au-delà de la nécessaire péréquation verticale, soit également développée à tous les niveaux une véritable péréquation horizontale. Je m'arrête là aussi sur ça. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est dans une situation qui n'est pas digne de notre République, quoi. Je crois que toutes les notions d'équité territoriale, et c'est l'État qui est garant de ça, quoi, d'avoir, de permettre un développement équitable, d'un développement équilibré sur tout le territoire. Il y a des territoires riches, il y a des territoires pauvres. C'est à l'État de mettre en place les mécanismes de péréquation, de redistribution, etc., un minimum en tout cas, pour que des pans entiers de notre territoire national ne soient pas laissés à l'abandon, ce qui est petit à petit le cas, parce que des départements pauvres comme le nôtre, d'abord, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez bien, vous avez vu, le département a été contraint d'augmenter fortement les impôts, et je peux vous dire, pour travailler actuellement sur le budget 2018, 2019, etc., du département de Lot-et-Garonne, mais comme ailleurs, que ce n'est pas pour autant facile et que le problème va se reposer tous les ans s'il n'y a pas des mesures significatives. Mais vous avez le cas partout. Nous avons un taux de taxes foncières en Lot-et-Garonne suite à l'augmentation là, de 20%. Nous sommes à un taux de 27,33% en Lot-et-Garonne. Vous avez le Gers à côté, il est déjà à 33%. Et il doit, semble-t-il, encore augmenter un peu, tout ça. Mais c'est affolant, quoi. C'est les départements les plus pauvres, par conséquent les contribuables les plus pauvres, qui sont obligés de payer ça. Mais à côté de ça, je vous donne deux exemples supplémentaires. Un département comme le nôtre, ça se pose ailleurs, ça se pose ailleurs. Qu'est-ce qu'on finance et qui n'entre pas dans nos compétences obligatoires? Je vous donne deux exemples. L'enseignement supérieur. Et l'enseignement supérieur, il est soutenu. Et si le département et l'agglomération d'Agen, depuis des années, ne s'étaient pas investis dans la réalisation, la construction, dire, moi j'ai connu ça, le DUSA, etc., tous ces équipements, ils ont été construits par l'agglo et avec le soutien du département, etc. Mais quand vous êtes à Bordeaux, c'est pas le département qui construit ça, c'est une compétence de l'État, il y a des universités, etc., etc. Ici, si vous voulez, et bien sûr qu'il faut le maintenir, parce que de l'enseignement supérieur à Agen, ça permet d'abord aux familles d'envoyer les enfants sans avoir des charges trop lourdes, hein, parce que les enfants rentrent à la maison le soir, au moins pendant une partie de leurs études, etc. C'est une des conditions de l'avenir de notre département, de s'investir là-dedans. Mais tous les ans, les amis, tous les ans, vous versez, le département verse plus de 600 000 euros, m'entendez, 600 000 euros, l'agglomération en verse autant, plus de 600 000 euros, c'est le contribuable qui paye ça. Deuxième exemple que vous connaissez bien, l'aéroport d'Agen, dont vous connaissez la situation difficile à tout point de vue. Il est soutenu aujourd'hui, là, depuis quelques années, à hauteur de 2 millions, vous m'entendez, la liaison, hein, je parle simplement, ce n'est pas l'aéroport seulement, c'est la liaison Agen-Paris. Pourquoi ? Mais parce que il a été considéré depuis des années que d'avoir une liaison aérienne avec Paris était un atout, quoi, était un atout pour le développement du territoire, pour l'installation d'entreprises ici, etc., etc. Alors on peut en discuter, bien entendu. Mais en tout cas, ce choix a été fait de soutenir. Aujourd'hui, c'est plus possible. Le département, il met 2 100 000 euros tous les ans dans cette affaire-là. L'agglo, elle met 700 000 euros. C'est plus possible et ça sera plus possible. D'ailleurs, le département aujourd'hui ne pourra pas continuer là parce que la loi NOTRe ne permet pas et puis parce que les finances ne permettent pas aussi. Bref, mais ça, vous ne l'avez pas à Bordeaux-Mérignac. La CUB, elle ne verse pas à Air France des trucs pour faire fonctionner la ligne. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Voilà, les départements les plus pauvres, les départements ruraux, ils sont obligés sans arrêt de mettre la main à la poche pour donc ça crée des inéquités quoi sur le territoire national qui ne sont pas admissibles. Aujourd'hui, les territoires ruraux, ils sont en souffrance et malheureusement, j'ai pas le sentiment que la réforme régionale, les nouvelles grandes régions, etc., soit de nature à résorber quoi. C'est différent, ces inégalités. Voilà un peu le sens de cette motion. Alors, c'est une motion, mais elle a été votée à l'unanimité parce que, au-delà des combats et des disputes qu'il peut y avoir dans une enceinte démocratique où on peut toujours contester d'avoir pris en charge telle ou telle dépense, mais là, c'est véritablement important. Et si ce n'est pas pris en considération par l'État, je trouve que c'est grave pour des territoires comme le nôtre. Et moi, je vous engage à soutenir évidemment cette motion. Ça ne suffira pas. Il faudra évidemment continuer à batailler là-dessus. Et je ne comprendrai pas personnellement qu'un gouvernement, quel qu'il soit, n'entende pas ça, quoi. N'entende pas ça. Il y a un appel à secours réel pour des territoires comme le nôtre qui sont à la traîne et qui le sont de plus en plus tous les ans. On a beaucoup d'exemples et beaucoup d'indicateurs qui en témoignent. Quoi. Voilà. Pardon d'avoir été long, je vous donne la parole. Vas-y. Bon, écoute, il y a en tout cas des départements qui sont en difficulté financière réelle, c'est-à-dire qui ont des difficultés pour boucler le budget, qui sont obligés d'augmenter les impôts. Certains l'ont fait ici en Lot-et-Garonne. Bon, ça n'a pas été fait depuis 2008 ou 2009. Cet engagement avait été pris. Sans doute qu'il aurait fallu... Ouais, moi, je m'occupe là des finances depuis peu de temps là-dessus, donc je vois les choses. Et je me dis que sans doute qu'il aurait fallu augmenter les impôts avant, sans doute qu'il aurait fallu voir des choses peut-être différemment, mais d'autres départements l'ont fait, ont augmenté les impôts avant, etc. Bien, mais des départements qui sont dans le rouge aujourd'hui, qui sont en difficulté, quoi, hein, encore, c'est, je retiens ce chiffre-là, ce nombre, 36 départements qui sont en grosse difficulté aujourd'hui. Et ce sont des départements ruraux. L'autre jour, j'ai un contribuable de bonne encontre là, qui est venu me voir. Et il venait me voir en tant que conseiller départemental. Il m'a dit, monsieur le maire, je viens vous voir sur cette augmentation des impôts. Expliquez-moi tout ça. On a pris le temps de discuter et tout. Et il m'a dit, mais je vous montre, là, j'ai un ami là, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques, donc il m'a montré sa feuille, etc. Et, évidemment, mais il y a un tissu industriel à Pau, etc. Et voilà, et effectivement, le poids qui pèse sur les contribuables dans les Pyrénées-Atlantiques et en Lot-et-Garonne, il n'est pas le même, quoi. Voilà. Et alors, dernière chose, pardon, et je te donne la parole, Cyriaque, pour situer un petit peu les choses. Vous voyez, là, j'ai le tableau sous les yeux, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, ça. On est sur un budget, vous voyez, ça c'est le budget 2018, mais c'est l'ordre d'idée qu'il faut retenir. Sur un budget, au total, il y a 443 millions, tout compris, etc., 366 de fonctionnement, 77 en investissement. Retenez, 366 millions de budget de fonctionnement au département de Lot-et-Garonne. Vous avez les grandes rubriques, là je vous les livre, le développement social, tout ce qui est développement social, c'est-à-dire les trois allocations dont je vous ai parlé, elles représentent à elles trois 110 millions. Mais à côté de ça, vous avez les subventions aux maisons de retraite, aux maisons d'accueil de personnes handicapées, etc., etc. Le développement social, c'est évidemment plein de choses, quoi, plein de dotations, de subventions, d'aides publiques, d'aides sociales, gérées par la MDPH, etc., etc. Le développement social, 224 millions. Sur un budget de fonctionnement de 366, 224. Les charges de personnel des 1400, hein, 1400 agents aujourd'hui au département, sociaux pour beaucoup, collèges, routes, etc., c'est 1400 agents, hein, sur tout le Lot-et-Garonne, ça représente 53 millions, c'est évidemment beaucoup, 53 millions, mais voyez simplement ce rapport, quoi, entre les charges de personnel au département et le développement social, 224 millions. Éducation et jeunesse, 6 millions en fonctionnement. Alors, bien sûr, il y a de l'investissement à côté, mais c'est les collèges, principalement. C'est une compétence directe, quoi. Hein. 6 millions. Autres interventions diverses, les pompiers, par exemple, mon cher Julien. Les pompiers, sachez que le département de Lot-et-Garonne verse un contingent de 15 millions, et bien sûr qu'il faut le faire. Mais le département est le plus gros contributeur, évidemment, du fonctionnement des pompiers. 15 millions, voilà, pour le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, 15 millions, vous voyez, ce sont des... Mais qu'est-ce qu'il faut supprimer? Que voulez-vous supprimer? Le développement social, à quelques nuances près, je vais vous donner des exemples, mais ce sont des dépenses obligatoires pour nous, parce que... Les prestations dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont fixées, les règles d'attribution, elles sont fixées par l'État, par la loi. Hein, c'est le département qui paye, mais elles sont fixées par la loi. Si vous avez un bénéficiaire, vous avez un peu plus de 9 000 bénéficiaires du RSA, un peu plus de 9 000. Ça fluctue avec le chômage. Mais quand tous les ans, le gouvernement décide de monter le RSA, le niveau... servi aux bénéficiaires, ben le département, il paye. Voilà, quoi. C'est comme ça. Donc, c'est lié, ça. Hein. C'est lié. Voilà. Donc, il n'y a pas trop de marge de manœuvre. Sur le social, on en est à regarder les plans d'aide. Vous voyez, les plans d'aide. Aujourd'hui, quand les médecins, les infirmières, les services sociaux disent à telle personne âgée... Voilà, on a fait un plan d'aide de 15 heures par mois ou 18 heures par mois d'aide ménagère. Eh bien, il va falloir le réduire. Mais vous ne le faites pas comme ça. Je veux dire, quand vous avez le corps médical ou les services qui vous disent « mais cette personne est au gire, je ne sais pas combien, mais nécessite des soins tous les jours, etc. », ben vous n'y échappez pas comme ça. Vous ne pouvez pas diviser par deux le nombre d'heures payées par le département là, pour l'aide ménagère, enfin, en partie, quoi. Hein, voilà. Donc c'est quand même une situation compliquée. Quand on regarde ça, quoi, moi je vais vous dire, ici quand on est à Boé, on a la chance d'avoir, évidemment discuté, mais on a un budget qui est facile, qui s'équilibre sans difficulté. Moi des fois quand je reviens du département et que je vois ça, mais j'ai l'impression qu'on est dans un mur, quoi, et que sans aide de l'État... Et c'est là que ce serait grave, quoi, que cette aide ne vienne pas de l'État. Je me dis, mais c'est insoluble, quoi. C'est insoluble de sortir d'une situation pareille. Et c'est un vrai problème, encore une fois, d'égalité ou simplement d'équité territoriale. Et c'est grave, quoi. Notre République, elle doit fonctionner et avancer de façon convergente, de façon coordonnée, de façon... identique, quoi. Nos habitants, qu'ils habitent à Clermont-Dessous, à Boé à Paris ou à Bordeaux ou à Nantes, et ils doivent être traités avec, par l'État avec la même attention. Quoi. Pardon d'avoir été un peu long, hein, mais voilà. Alors, Cyriac et Jean-Michel.
Je vais essayer d'être clair et cohérent parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Bon, déjà, moi, je soutiens pleinement cette motion. Après, je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Tu parlais d'équité sur le territoire. Moi, je parlais plutôt d'égalité. L'État assure l'égalité théoriquement assure l'égalité sur le territoire, et on constate que non. Moi, je pense qu'on arrive au bout, peut-être au bout de cette politique de décentralisation qui est complètement démolie. Hein. On voit bien ce qui se passe au niveau des départements. La région, ben, on n'en entend pas parler. Qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça? Même si ce n'est pas de sa compétence, je pense qu'économiquement, on n'est pas trop aidé. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Je ne vois pas tellement de choses évoluer dans ce département. Les écoles, n'en parlons pas. Alors, c'est une véritable catastrophe. Je veux quand même appuyer bien sur le fait que l'État, c'est notre République, c'est l'égalité sur le territoire. Moi, je n'imagine pas que demain, on n'ait plus d'électricité parce qu'on ne peut pas subventionner EDF. Déjà, quand on commence à avoir de moins en moins de trains, avant, on pouvait aller à Villeneuve en train, à Auchan en train. Maintenant, c'est tout juste, on pourra aller bientôt à Paris directement par le TGV. Je me pose des questions, c'est tout ce que j'avais à dire.
Je donne la parole à Jean-Michel. Simplement, là, sur ça, moi, j'ai le sentiment qu'on a beaucoup régressé depuis que, dans des temps plus anciens, existait, je pense à la DATAR, je pense à d'autres organismes, dont la mission était justement de travailler quoi, sur le décollage de territoires. Rappelez-vous, quand la Bretagne, il y a 30 ans, il y a 40 ans, était très en retard, ou 50 ans, très en retard par rapport au reste du pays, et où des politiques offensives, quoi, volontaristes de l'État, ont permis, par exemple, par le financement direct par l'État, quoi, de routes, de grandes infrastructures routières, etc., ont permis de faire décoller des territoires entiers, quoi. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'est plus capable de faire ça, et sans parler en effet de ce que rappelait Cyriac, c'est-à-dire le désengagement de beaucoup de services publics sur le territoire. Quoi. Voilà. Ça pose des questions politiques au sens vrai du terme. Hein. Là, on n'est pas. Voilà, moi, je pense qu'on ne peut pas examiner un texte comme ça, en effet, sans le resituer dans un ensemble général. Quoi. Jean-Michel.
Oui, enfin, moi, je vais revenir un peu sur une synthèse. Ça va revenir un peu sur les propos qui viennent d'être dits. Moi, je pense, est-ce que le département a besoin de l'État, ou est-ce qu'il faut plutôt que l'État ait une politique donc de délocalisation d'aménagement de territoire pour faire en sorte que les entreprises qui se concentrent sur Bordeaux, les deux métropoles qu'on a de chaque côté, et arrivent à se délocaliser et viennent faire vivre le département du Lot-et-Garonne et la ville d'Agen. On va créer de la richesse et à partir de là, on a plus besoin. C'est une politique d'aménagement du territoire plutôt que de l'aide de l'État, je crois, qu'il faut demander. Quoi.
C'est vrai que là, il y a un appel au secours relativement urgent, en effet, sur des aides qui doivent de façon ciblée, quoi, porter simplement sur la prise en charge par l'État de dépenses qui lui incombent. Encore une fois, la solidarité nationale, 46 millions dont je parlais tout à l'heure, mais au-delà de ça, en effet, c'est toute une question d'aménagement du territoire. Et en effet, si on arrive à réorienter par des mesures incitatives ou dissuasives, c'est-à-dire que ça coûte plus cher pour des entreprises d'aller dans des endroits où c'est déjà en surdensité, quoi, voilà, bon, effectivement, si on arrive à irriguer des territoires qui se meurent aujourd'hui par de l'activité économique, on résoudra en partie le problème. Mais voilà. Arnaud.
Non, on discute, hein, c'est pas, il n'y avait pas de. Mais oui, après, c'est pas ce que j'avais entendu dans la bouche de Jean-Michel. Donc là, effectivement, je comprends mieux cette réflexion-là. Mais attendre de la région que ça soit elle qui fasse l'effort de développer notre département, ça, j'y crois pas. Je pense que la région vampirise aujourd'hui le financement dont elle bénéficie. Après, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu bâtarde où il est prévu la destruction littéralement des départements. Et je crois qu'on est un peu entre deux, qui sont déstructurés et qui ont encore un peu de compétences, mais on veut plus leur donner tout à fait les moyens de ça parce que tôt ou tard, ça aura vocation à disparaître. Je crois qu'on est vraiment dans cette situation un peu entre deux, où on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, mais qui aurait eu dans l'idée de le faire disparaître, quoi.
Mais là, il faut être... Effectivement, alors, le président de la République, il a dit qu'il ne ferait pas de réforme institutionnelle durant son mandat. Donc ça veut dire qu'il n'a pas l'intention de toucher aux institutions décentralisées telles qu'elles sont aujourd'hui. Bon, donc il a dit ça. Sinon, si le département va disparaître, pourquoi pas, mais il faut le dire clairement et dire en effet par quoi et comment les populations seront... prise en charge sur les compétences qu'exerce aujourd'hui le département, mais peu importe, il faut être clair là-dessus, quoi. Mais au-delà de la forme, quoi, et des institutions, et il faut penser aux Français qui vivent pas tous sur les mêmes territoires et pas tous dans les mêmes conditions, quoi. Voilà. Cyriac, qui veut prendre la parole après et puis on...
Oui, je veux rebondir sur ce que disait Arnaud. La compétence économique, c'est la région, et les règles du jeu, ça a été institué, hein, c'est les institutions. Donc le département, je suppose que le département aimerait bien pouvoir participer à ce développement économique, mais pleinement, hein, j'entends bien. Mais il faut avoir des moyens, et les moyens, ils ne sont pas au département, ils sont à la région. Alors, bon, je ne voudrais pas jeter la pierre à la région, mais quand même, ils sont loin, hein, avec la grande région. Maintenant, le centre dirigeant, il est loin de nous, loin des yeux, loin du cœur. Enfin, moi, je fais un constat. Alors, peut-être que je me trompe, mais je fais un constat. Et l'État, ben, je suis désolé, mais l'État, bon, moi, de toute façon, je suis jacobin, hein, de forme, mais bon.
Mais pour illustrer ce que vient de dire Cyriac, je vous donne un exemple précis. Le marché d'intérêt national, il est pour l'essentiel sur Boé. Le marché d'intérêt national, aujourd'hui, il est propriété du département à 60% et de l'agglomération à 40%. Aujourd'hui, avec la loi NOTRe de 2015, et aussi parce que, pour des raisons financières qu'on peut voir, le département, il doit se retirer. La loi NOTRe, et en tout cas l'interprétation, parce que des fois, il y a des interprétations divergentes là-dessus, sauf que nous, on a, de la part de la Direction générale des collectivités locales, tout ça, des injonctions à ne plus rester dans le mine pour ce qui concerne le département. Donc, à terme, la transition, et on en discute avec l'agglo, avec les collègues de l'agglo, bon, bref, moi, je suis dans les deux, donc on discute de ça, comment faire la transition, comment transmettre à l'agglo, qui a la compétence économique avec la région. Hein, voilà, la compétence économique, aujourd'hui, c'est région et c'est intercommunalité. Mais l'agglo, elle demande à voir, quoi, aussi. Hein, elle ne veut pas s'engager et engager le contribuable à Genève dans des dépenses. Bon, ce ne sera pas le cas, mais voilà, on en est là. Et sur le mine, la région, dont c'est quand même la compétence, hein, la région, elle est sollicitée pour aller sur le mine. Mais la région... J'aime bien le président de la région Nouvelle-Aquitaine, sauf que lui, il est plus intéressé par les centres d'expérimentation laser et aéronautique, etc., etc., que par le mine. Donc, lui, il n'y va pas. Là encore, donc on revient sur des... Voilà, il faudra que l'agglo se débrouille avec le département qui va se retirer, etc., etc. Compliqué, hein, compliqué. Nino, Henri, qui c'est qui veut prendre la parole ?
Marché d'intérêt
national. Oui, exact, tu as raison.
Je ne pense pas qu'autour de cette table, on ait des solutions, mais ce n'est pas d'aujourd'hui quand même qu'on sait qu'il y a des strates qui sont trop nombreuses. Il y a une strate sur deux qu'il faut faire disparaître, que ce soit dans la partie purement politique que la partie gestion de notre pays.
Oui, c'est la question du millefeuille territorial, mais moi, je le pense aussi, oui, il faudrait une simplification. Elle n'est jamais facile à faire, mais oui, sans doute. Mais après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Si aujourd'hui, entre les communes et l'intercommunalité et la région, il n'y a rien, il va falloir quand même bien définir les choses, quoi, hein, parce que, là encore, des intercos éloignés voilà, pourraient souffrir de ça. Bon, ce n'est pas facile, mais... Oui, et qui va porter une grande réforme institutionnelle. En tout cas, le président de la République, il ne veut pas le faire pendant les 5 ans. Hein. Il a autre chose à faire, sans doute, mais... Deuxième mandat. Bien, les amis, c'est un tour. On s'est éloigné un petit peu de la motion, mais enfin, c'est quand même sous-jacent. Hein. Il faut la voter, oui. Est-ce qu'on n'a pas épuisé le sujet, mais plus rien à dire? Alors, je mets aux voix ce rapport. Donc, il s'agit de voter ou pas cette motion qui est elle-même un soutien à une motion adoptée unanimement, je le redis, au niveau du département et proposée à votre approbation, comme à l'approbation de tous les élus municipaux du département de Lot-et-Garonne, par le département bien sûr, mais aussi par l'Amicale des maires et par les maires ruraux. Je mets aux voix cette motion. Qui est d'avis de l'adopter? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de cette unanimité, chers collègues, et nous allons faire remonter ce résultat. Cyriac.